Ça parle de quoi déjà? Bah, je sais pas, je crois que la théogonie, je sais pas ce que c'est, ça doit être de la bouffe.
La théogonie, c'est la géographie.
Ah, je pensais nous, la géographie. Je pensais que c'était l'histoire des dieux.
Vous pensez qu'il y a un buffet
de... Ouais, de la bouffe.
Oui, mais je sais pas si ce sera payant ou gratuit.
On va manger des chocolats.
Commençons par invoquer les muses de l'Hélicon. Les muses qui, habitant cette grande et céleste montagne, dansent d'un pas léger autour de la noire fontaine et de l'autel du puissant fils de Cronos, et forment sur la plus haute cime de l'Hélicon des cœurs admirables et gracieux. Lorsque le sol a frémi sous leurs pieds bondissants, dans leur pieuse ardeur enveloppée d'un épais nuage, elles se promènent durant la nuit et font entendre leur belle voix en célébrant Zeus armé de l'Égide, l'Auguste Héra d'Argos, qui marche avec des brodequins d'or, la fille de Zeus, Athéna aux yeux bleus, Phébus Apollon, Artémis chasseresse, Poséidon qui entoure et ébranle la terre, la vénérable Thémis, Aphrodite à la paupière noire, Hébée à la couronne d'or, la belle Dionée, l'aurore, le grand soleil, la lune splendide, l'Atone Japet, l'astucieux Cronos, la terre, le vaste océan et la nuit ténébreuse, enfin la race sacrée de tous les autres dieux immortels.
T'as compris quelque chose à ce qu'il vient de dire, toi?
Ouais. C'est dit qu'il y a des belles jeunes filles qui racontent l'histoire des dieux et qui dansent un pas léger.
Hein, d'accord.
Célébrons d'abord les muses qui, dans l'Olympe, charment la grande âme de Zeus et marient leurs accords en chantant les choses passées, présentes et futures. Leur voix infatigable coule de leur bouche en doux accents. Et cette harmonie enchanteresse fait sourire le palais de leur père qui lance la foudre. Dans la pierie, Mnémosyne, qui régnait sur les collines d'Éleuthère, unis au fils de Cronos, mit au jour ces vierges qui procurent l'oubli des maux et la fin des douleurs. Durant 9 nuits, le prudent Zeus, montant sur son lit sacré, coucha près de Mnémosyne, loin de tous les immortels. Après une année, Mnémosyne enfanta 9 filles animées du même esprit, sensibles au charme de la musique et portant dans leur poitrine un cœur exempt d'inquiétude.
Comment ça s'appelle, d'après toi, 9 jumelles? 6, c'est des sextuplés. Mais 9.
Qu'est-ce que j'en sais, moi, des... nous plaît.
Elle les enfanta près du sommet élevé de ce neigeux Olympe, où elles forment des cœurs brillants et possèdent des demeures magnifiques. À leur côté se tiennent les grâces et le désir dans les festins, où leurs bouches, épanchant une aimable harmonie, chantent les lois de l'univers, fières de leur belle voix et de leur divin concert, elles montèrent dans l'Olympe, et sous leurs pieds s'élevait un bruit ravissant, tandis qu'elles marchaient vers l'auteur de leur jour, ce roi du ciel, ce maître du tonnerre et de la foudre, qui, puissant vainqueur de son père Cronos, distribua équitablement à tous les dieux les emplois et les honneurs. Voilà ce que chantaient les muses, les habitantes de l'Olympe, les 9 filles du grand Zeus. Clio, Euterpe, Thalie, Melpomène, Terpsichore, Erato, Polymnie, Uranie et Calliope, la plus puissante de toutes, car elle sert de compagne au roi vénérable.
Salut, fille de Zeus. Donnez-moi votre voix ravissante. Chantez la race sacrée des immortels. Dites comment naquirent les dieux, et la terre, et les fleuves, et l'immense Pontus aux flots bouillonnants, et les astres étincelants, et le vaste ciel qui les domine. Muse, révélez-moi l'origine du monde et remontez jusqu'au premier de tous les êtres.
Y a pas à dire, c'est beau quand même.
Chut, écoute.
Au commencement exista le chaos. Puis la terre à la large poitrine demeure toujours sûre de tous les immortels qui habitent le faîte de l'Olympe neigeux. Ensuite, le sombre Tartare, placé sous les abîmes de la terre immense. Enfin l'amour, le plus beau des dieux, l'amour qui amollit les âmes et, s'emparant du cœur de toutes les divinités et de tous les hommes, triomphe de leur sage volonté. Du chaos sortirent les rêves et la nuit obscure. L'éther et le jour naquirent de la nuit. Qu'il est conçu en s'unissant d'amour avec les rêves.
Elle est un peu comme Zeus, la Terre.
Terre et Uranus,
c'est-à-dire,
eurent encore 3 fils.
Elle a l'air de nommer les sexes.
Grand et vigoureux, funeste à nommer, Cotus, Briaré et Gigès. Race orgueilleuse et terrible. 100 bras invincibles s'élançaient de leurs épaules et 50 têtes, attachées à leur dos, s'allongeaient au-dessus de leurs membres robustes.
Leurs membres robustes? Dis-moi, ça a encore rien à voir avec leurs membres virils ?
Mais non, c'est leurs bras, imbécile !
Leur force était immense, infatigable, proportionnée à leur haute stature. Ces enfants, les plus redoutables de tous ceux qu'engendrèrent Terre et Uranos, devinrent, dès le commencement, odieux à leur père. À mesure qu'ils naissaient, loin de leur laisser la lumière du jour, Uranos les cachait dans les flancs de Terre et se réjouissait de cette action dénaturée. La Terre immense gémissait, profondément attristée, lorsqu'enfin, elle médita une cruelle et perfide vengeance. Dès qu'elle eut tiré de son sein l'acier éclatant de blancheur, elle fabriqua une grande faux, révéla son projet à ses enfants, et pour les encourager, elle dit, le grand et astucieux Cronos, ayant pris confiance, répondit à sa vénérable mère. À ces mots, la Terre immense ressentit une grande joie au fond de son cœur. Après avoir caché Cronos dans une embuscade, elle remit en ses mains la faux à la dent tranchante et lui expliqua sa ruse tout entière. Le grand Uranos arriva, amenant la nuit et animé du désir amoureux. Il s'étendit sur Terre de toute sa longueur.
Ouh, ça doit faire mal!
Ah oui, tu m'étonnes, j'aimerais pas être à sa place.
Alors son fils sortit de l'embuscade, le saisit de la main gauche et de la droite, agitant la faux énorme, longue, acérée, s'empressa de couper l'organe viril de son père et le rejeta derrière lui. Toutes les gouttes de sang qui en découlèrent, Terre les recueillit. Et les années étant révolues, elle produisit les redoutables furies, les géants monstrueux, chargés d'armes étincelantes et portant dans leurs mains d'énormes lances. Enfin ces nymphes, qu'on appelle Mélie, sur la Terre immense. Cronos mutila de nouveau avec l'acier, le membre qu'il avait déjà coupé, et le lança du rivage dans les vagues agitées de Pontus.
En fait, j'ai pas tout compris. Alors, Cronos, il a coupé le Sgeil de son père, avec une faux fabriquée par les seins de sa mère, et après, il le coupe en morceaux, pour le jeter dans la mer, c'est ça ?
C'est ça.
La mer le soutint longtemps, et de ce débris, d'un corps immortel, jaillit une blanche écume, d'où naquit une jeune fille, qui fut d'abord portée vers la divine Citère, et de là, parvint jusqu'à Chypre, entourée de flots. Bientôt, déesse ravissante de beauté, elle s'élança sur la rive, et le gazon fleurit sous ses pieds délicats. Les dieux et les hommes appellent cette divinité à la belle couronne Aphrodite, parce qu'elle fut nourrie de l'écume des mers. Citérée, parce qu'elle aborda Citère, Cyprigénie, parce qu'elle naquit dans la Chypre, entourée de flots, et Philomédée, parce que c'est d'un organe générateur qu'elle reçut la vie.
Finalement, on l'appelle comment ?
On a qu'à faire un mélange de tout. Afro Cyprimédée.
Désolé, merci.
Le grand Uranos, irrité contre les enfants qu'il avait engendrés lui-même, les surnomma les Titans, disant qu'ils avaient étendu la main pour commettre un énorme attentat dont un jour ils devraient recevoir le châtiment.
La nuit enfanta l'odieux destin, la noire part qu'est la mort.
Elle fit naître le sommeil avec la troupe des sombres.
Ensuite, elle engendra Momus,
le chagrin douloureux,
les Hespérides,
qui part de là l'illustre Océanos.
Garde les pommes d'or et les arbres chargés de ses beaux fruits, les destinées, les parcs impitoyables, qui dispensent le bien et au mal au nom de naissance.
Poursuivre les crimes de ces hommes et des dieux, et dispensent leur terrible colère qu'après avoir exercé sur le coupable une cruelle vengeance.
La nuit funeste conçut encore Némésis,
ce fléau des mortels,
puis la fraude, l'amour criminel, la triste vieillesse, les riches au cœur opiniâtre.
L'odieuse Hérisse fit naître à son tour le travail importun,
l'oubli, la faim, les douleurs qui font pleurer, les disputes, les meurtres, les guerres, le carnage, les querelles, les discours mensongers, les contestations, le mépris des lois et athées. Ce couple inséparable, enfin Orcus, si fatal aux habitants de la terre, quand l'un de ceux leur joue volontairement.
Dis, tu trouves pas que ça devient moins drôle tout d'un coup ?
Ah si, carrément.
Ce même dieu, uni avec la terre, eut pour enfant le grand Thomas. Thomas épousa Electre, née du profond Océanos. Electre enfanta la rapide Iris, les harpies à la belle chevelure, qui, de leurs ailes légères, égalent la vitesse des vents et des oiseaux. Et les Gorgones qui habitent par-delà l'île Océanos, vers l'Empire de la Nuit, dans ces lointaines contrées, où demeurent les Hespérides à la voix sonore. Les Gorgones, Steno, Euryale et Méduse, éprouvée par les cruelles souffrances.
Tu connais Méduse, la fille avec les cheveux de serpent?
Ouais, quand on se fait piquer, il faut faire pipi sur la piqûre.
Caliroé, au fond d'une caverne, engendra un autre enfant monstrueux, la divine Echidna au cœur intrépide. Moitié nymphe aux yeux noirs, moitié serpent énorme et terrible, marqué de taches diverses et nourri de chair sanglante. Typhon, ce vent fougueux et redoutable, s'unit, dit-on, avec cette nymphe aux yeux noirs, enfanta une race courageuse, d'abord Orthos, ce chien de Gérion, ensuite l'indomptable Cerbère qu'on ne nomme qu'avec effroi, ce gardien d'Hadès, ce dévorant Cerbère aux 50 têtes. Enfin, la fatale hydre de Lerne que nourrit Héra pour assouvir son implacable haine contre Hercule. Echidna fit naître aussi la chimère, lion par le haut de son corps, dragon par derrière.
Quoi? Elle se chevauchait par un dragon?
Mais non! C'est derrière son corps qu'est un dragon.
Ah.
Dragon par derrière, chèvre par le milieu, elle vomissait avec un bruit affreux les tourbillons d'une dévorante flamme. Rhea, amoureusement domptée par Cronos, mit au jour d'illustres enfants. Hestia, Déméter, Héra, le redoutable Hadès qui habite sous la terre, le bruyant Poséidon, le prudent Zeus, ce père des dieux et des hommes dont le tonnerre ébranle la terre immense. En Cronos dévorait ses enfants à mesure que des flancs sacrés de leur mère y tombaient sur ses genoux.
Comment ça? Il mangeait ses gosses? Il est cannibale ou quoi?
On dirait.
Il agissait ainsi, dans la crainte qu'un autre des glorieux enfants du ciel ne possédât parmi les dieux l'autorité souveraine. Car il avait appris de la terre et d'Uranos que, d'après l'ordre du destin, un jour, malgré sa force, il serait vaincu par son propre fils et détrôné par le conseil du grand Zeus.
L'élève surpasse le maître.
Ouais, c'est bien fait pour lui.
Cependant, la vigueur et les membres superbes du jeune roi croissaient avec promptitude. Les années étant révolues, trompé par les perfides conseils de terre, l'astucieux Cronos rendit au jour toute sa race et succomba, vaincu par la force et par l'adresse de son fils. D'abord, il vomit la pierre qu'il avait dévorée la dernière. Zeus s'affranchit de leur lien douloureux tous ses oncles. Enfant Uranos, que son père avait enchaîné dans sa démence. Ses dieux, reconnaissant d'un pareil bienfait, lui remirent ce tonnerre, ces éclairs, cette brûlante foudre que terre au large flanc avait jusqu'alors recelée. Fier de ses armes divines, Zeus règne sur les hommes et sur les immortels. Japé épousa Climène, cette jeune océanide aux pieds charmants. Et Climène enfanta le magnanime Atlas, l'orgueilleux Ménétius, l'adroit et astucieux Prométhée et l'imprudent Épiméthée, qui dès le principe causa tant de mal aux industrieux habitants de la Terre, car c'est lui qui le premier accepta pour épouse une vierge formée par l'ordre de Zeus. Zeus, à la large vue, furieux contre l'insolent Ménétius, le plongea dans les rêves, après l'avoir frappé de son brillant tonnerre, pour châtier sa méchanceté et son audace sans mesure. Vaincu par la dure nécessité, Atlas aux bornes de terre, debout devant les Hespérides à la voix sonore, soutient le vaste ciel de sa tête et de ses mains infatigables. Tel est l'emploi que lui imposa le prudent Zeus. Quant au rusé Prométhée, il l'attacha par de nœuds indissolubles autour d'une colonne, puis il envoya contre lui un aigle aux ailes étendues qui rongeait son foie immortel. Il en renaissait autant durant la nuit que l'oiseau aux larges ailes en avait dévoré pendant le jour. Longtemps éprouvé par de pénibles travaux, les dieux titans et les enfants de Cronos se livrèrent entre eux de terribles batailles.
Un grand combat s'engagea entre tous les dieux et toutes les déesses.
Entre les titans et les enfants de Cronos que Zeus tira des abîmes souterrains de l'Érèbe.
Pour les rappeler à la lumière.
Armée formidable.
Puissante.
Douée d'une force prodigieuse.
Ces guerriers avaient chacun
son bras qui s'élancèrent de leurs épaules.
Et 50 têtes.
Attachés à leur dos.
Planés sur leurs membres robustes.
Opposés aux titans de cette guerre désastreuse.
Tout porté dans leurs fortes mains d'énormes rochers.
De l'autre côté, les titans, pleins d'ardeur,
affermissaient leurs phalanges.
Les deux parties déployaient leur audace et la vigueur de leurs bras.
Un horrible fracas retentit sur la mer immense.
Terre poussa de longs bruissements.
Le vaste ciel gémit au loin et pendait.
Et tout le grand Olympe trembla.
Secoué jusqu'en ses fondements par le choc céleste des armées.
Et tout le grand Olympe trembla,
secoué jusqu'en ses fondements par le choc des célestes armées.
Alors Zeus n'enchaîna plus son courage. Son âme se remplit soudain d'une bouillante ardeur et il déploya sa force tout entière. S'élançant des hauteurs du ciel et de l'Olympe, il s'avançait armé de feux étincelants. Les foudres, rapidement jetées par sa main vigoureuse, volaient au milieu du tonnerre et des éclairs redoublaient et roulaient au loin une divine flamme. Le monde s'embrasait. On voyait bouillonner les flots de l'océan et la mer stérile. Une brûlante vapeur enveloppait les titans terrestres. La flamme immense s'élevait dans l'air céleste, et les yeux des plus braves guerriers étaient aveuglés par l'éblouissant éclat de la foudre et du tonnerre. Le vaste incendie envahit le chaos.
Mais sérieux, en fait, les dieux, soit ils se battent, soit ils bêlent.
On peut dire ça comme ça.
Quand les bienheureuses immortelles, après avoir courageusement combattu pour l'Empire contre les titans, eurent terminé cette guerre pénible, ils engagèrent, d'après les conseils de Terre, Zeus Olympien, à la large vue, à saisir le pouvoir et à commander aux dieux. Zeus leur distribua les honneurs avec équité. Ce roi des immortels choisit pour première épouse Métis, la plus sage de toutes les filles des dieux et des hommes. Mais lorsque Métis fut sur le point d'accoucher d'Athéna, déesse aux yeux bleus, Zeus, l'abusant par de flatteuses paroles, la renferma dans ses propres flancs. Selon les conseils de Terre et Uranos, couronné d'étoiles, qui voulait empêcher qu'au lieu de Zeus, un autre des dieux immortels s'emparât de l'autorité souveraine. Ensuite, il épousa la brillante Thémis. Thémis enfanta les Heures, la florissante Irène, qui veille sur les ouvrages des humains et les parcs. Comblé par Zeus des plus rares honneurs, qui dispense aux hommes et les biens et les maux. La fille d'Océanos, Eurynome, douée d'une beauté ravissante, conçut Zeus trois grâces aux belles joues. Déméter, cette nourrice du monde, laissa Zeus entrer dans sa couche et engendra Proserpine, au bras d'Albâtre. Proserpine que Hadès ravit à sa mère et que le prudent Zeus lui permit de posséder. Zeus aima encore Mnémosyne, à la belle chevelure, qui enfanta les neuf muses aux bandelettes d'or. Les muses sensibles au plaisir des festins et aux douceurs du chant. Latone unit l'amour avec le maître de l'Égide, fit naître Apollon et Artémis, chasseresses. Ces deux enfants les plus aimables de tous les habitants du ciel.
Eh ben dis donc, quel chaud lapin !
Attends, c'est pas fini.
Enfin, Zeus eut pour dernière épouse l'éclatante Héra, qui mise au jour Hébès, Arès et Ilithi, après avoir partagé la couche du roi des dieux et des hommes. Mais il fit sortir de sa propre tête, Tritégonie, aux yeux bleus. Héra, sans s'unir à son époux, mais luttant de pouvoir avec lui, après de laborieux efforts, enfanta l'illustre Héphaïstos, le plus industrieux de tous les habitants de l'Olympe. La fille d'Atlas, Maïa, montant sur la couche sacrée de Zeus, lui donna le glorieux Hermès, héros des immortels. Sémélé, fille de Cadmus, fécondée par les embrassements de Zeus, quoique mortelle, engendra un dieu, le célèbre Dionysos, qui répand au loin l'allégresse. Tous les deux, maintenant, jouissent les célestes honneurs. Alcmès, unie d'amour avec Zeus, qui rassemble les nuages, donna l'existence au puissant Hercule.
Tout est bien qui finit bien. Comme d'habitude.
Ouais,